RFI minuit 30 à Paris, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Et toute l'actualité africaine, c'est avec Sylvie Berruet. Bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. L'escalade diplomatique entre l'Algérie et l'AES, l'Alliance des États du Sahel, Alger fait part de sa consternation après le rappel des ambassadeurs à Alger, du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Ces trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel accusent l'Algérie d'avoir abattu un drone en territoire malien, des accusations rejetées par Alger. Le Niger, où le français n'est plus la langue officielle, il a été détrôné par le Hausa. Nous y reviendrons avec Magali Lagrange. À Kinshasa, la société civile en colère contre les autorités après les inondations meurtrières. Elle dénonce une mauvaise gestion et un manque d'anticipation. Au Rwanda, comme chaque 7 avril, c'est le début des commémorations du génocide de 1994. Commémoration avec en toile de fond la guerre dans l'est de la RDC lancée par le M23, puis appuyée par Kigali. Enfin, nous ferons le tour d'horizon de l'actualité musicale en compagnie de Franck Baudin d'RFI Musique. Le ton monte entre l'Algérie et les trois pays de l'Alliance des États du Sahel depuis la destruction d'un drone malien par l'Algérie à Tinzad-Ouaten. C'était à la frontière entre les deux pays dans la nuit du 31 mars au 1er avril. Alger et Bamako ont annoncé ces dernières heures la fermeture de leurs espaces aériens respectifs. Un peu plus tôt, l'Algérie a répondu au Mali et à ses alliés nigériens et burkinabés de l'AES qui ont affirmé que le drone malien n'était jamais entré sur le territoire algérien, accusant Alger d'être un exportateur de terrorisme. Bonsoir David Baché.
Bonsoir Sylvie.
On l'a compris, hein, le ton monte. Alger qui réplique ce lundi sur le même ton, dénonçant les allégations mensongères servant de dérivatif à l'échec du projet putschiste malien.
Oui, Alger assure que toutes les données du ministère algérien de la Défense, y compris les images du radar, établissent une violation de l'espace aérien de l'Algérie, précisément à minuit 8 sur une distance de 1,6 km. Le drone aurait pris une trajectoire offensive, d'où sa destruction. Alger assure en outre que ce n'est pas la première, mais la troisième fois qu'un drone malien entrait en Algérie. Les précédentes incursions seraient survenues les 27 août et 29 décembre dernier. L'Algérie et le Mali affirment donc avec la même force disposer de données techniques incontestables, mais aucun des deux ne les a rendues publiques. Alger et Bamako annoncent ce soir se fermer mutuellement leur espace aérien respectif. En clair, les appareils à destination ou en provenance du Mali ne peuvent aller ou passer en Algérie et réciproquement.
Et la fermeture de l'espace aérien algérien ne s'applique pas en revanche aux alliés du Mali que sont le Niger et le Burkina.
Non, mais concernant les deux autres membres de l'AES, l'Algérie déplore leur alignement inconsidéré sur le Mali. Les trois pays de l'Alliance des États du Sahel avaient annoncé hier le rappel pour consultation de leurs ambassadeurs en poste en Algérie. Par réciprocité, Alger rappelle donc ses ambassadeurs au Mali et au Niger et décide de différer la prise de fonction de son nouvel ambassadeur au Burkina. Le Mali s'est aussi retiré du CEMOC, le comité d'état-major conjoint qui rassemble Algérie, Mali, Mauritanie et Niger, et a annoncé une plainte devant les instances internationales, sans préciser lesquelles. L'escalade se poursuit donc, mais sans dimension militaire à ce stade, depuis donc la destruction du fameux drone.
Merci David Baché. Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 22h34 en temps universel. L'AES qui a pris ses distances avec la CEDEAO, on le sait, comme avec la France, ancienne puissance coloniale. Ainsi, au Niger, le français n'est plus la langue officielle. Il est détrôné par le Hausa. Le décret a été publié la semaine dernière au journal officiel. Selon un texte, il se fonde sur les recommandations des Assises nationales de février qui a été entérinée par le chef de la junte, le général Tiani. Magali Lagrange.
Le français devient une simple langue de travail. L'article 12 de la charte de la refondation ne mentionne plus de langue officielle. Il liste les 11 langues parlées du Niger et définit l'une d'entre elles comme langue nationale, le Hausa. C'est la plus parlée sur l'ensemble du territoire. Elle est comprise, selon un linguiste que nous avons pu joindre, par une grande majorité de la population. Vient ensuite le Zarma Sonrai, la langue de l'Ouest parlée par à peu près un quart des Nigériens. Dans la constitution précédente, les langues de toutes les communautés du Niger avaient en toute égalité statut de langue nationale. Le français, parlé par 13% de la population, était donc la langue officielle. Mais les nouvelles autorités, en froid avec Paris, ont quitté l'Organisation internationale de la francophonie le mois dernier et rebaptisé récemment plusieurs rues de Niamey qui portaient des noms de Français. Reste à savoir si ces changements linguistiques auront des conséquences concrètes. Sur les réseaux sociaux, certains internautes nigériens s'inquiètent d'une hiérarchisation des langues du pays et d'un risque de communautarisme.
Nous restons dans l'ouest du continent, la Côte d'Ivoire, avec un mouvement social qui touche les écoles du secteur public. Un appel à la grève de 48 heures a été lancé dans les écoles primaires et secondaires. Deux intersyndicales réclament le paiement de primes trimestrielles. Le mouvement a été enclenché alors que le ministère de la fonction publique menace de licencier les enseignants grévistes. Binta Diagne.
Au collège moderne de Mputo, des élèves s'occupent en attendant leurs professeurs. Certains font leurs devoirs, d'autres révisent leurs leçons.
Normalement, on a cours à 8h25 avec un professeur d'espagnol.
Et là, qu'est-ce que vous faites avec vos cahiers actuellement ?
On devrait se mettre à jour puisque on est très en retard sur les cours de physique-chimie.
En milieu de matinée, dans la commune d'Abobo, plusieurs dizaines d'élèves quittent l'école dépités.
Ça nous perturbe beaucoup parce que nous sommes en classe d'examen. Donc, on devait bosser, faire les cours, mais eux ne viennent pas à cause des grèves. Ça nous fatigue.
Ce mouvement est initié par deux centrales syndicales. Les enseignants réclament l'octroi d'une prime d'incitation. Des discussions sont en cours depuis octobre dernier, mais les syndicats accusent le gouvernement de faire traîner les négociations. David Bliblé, le porte-parole de ce mouvement.
Le taux de suivi est vraiment exemplaire au niveau de l'enseignement secondaire général, avec un taux de 97,69%.
Pour le gouvernement, cette grève est illégale, car elle contredit l'esprit de la trêve sociale qui prévaut jusqu'en 2027. Xavier Efoué, conseiller en communication au ministère de l'Éducation.
Le dialogue n'a jamais été rompu. On ne comprend pas pourquoi, au moment où le comité d'experts mis en place par le comité consultatif de la fonction publique est en train d'analyser et d'examiner tous les dossiers que des organisations syndicales décident d'aller en grève.
En octobre dernier, un mouvement social similaire avait conduit à la suspension de salaire pour 26 enseignants grévistes. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
La Côte d'Ivoire, où un détenu est mort et trois personnes ont été blessées dans une bousculade lors d'une tentative d'évasion aujourd'hui à la prison de Boaké. C'est dans le centre du pays, c'est le procureur qui l'annonce déjà. Dimanche, des troubles ont éclaté dans cette prison après des saisies de drogue dans les colis des visiteurs, des colis destinés aux détenus.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
En République démocratique du Congo, après le choc, la colère à Kinshasa, la société civile hausse le ton après les inondations qui ont fait au moins 30 morts vendredi et samedi et provoqué d'importants dégâts causés notamment par des éboulements. Dans un communiqué, des acteurs de la société civile pointent la responsabilité du gouverneur de Kinshasa qu'ils appellent à la démission. Ils dénoncent une gestion incompétente et hasardeuse. Ils réclament également des enquêtes sur la gestion des fonds publics et l'ouverture de centres d'accueil pour les sinistrés. Florimond Mouteba est responsable d'une ONG, membre de cette organisation citoyenne. Il répond à Patient Ligodi.
Le premier, c'est d'abord les conséquences de cet éboulement et la mort de plus d'une trentaine de Kinois. Il ne peut pas rester à son poste. C'est pas possible. 30 morts. Et encore, c'est jusque-là, c'est ce qu'on a compté. Mais après ça, on va voir jusqu'où on va. Mais au-delà de ces 30 morts, c'est toujours le manque de prévision. On ne prévoit rien et puis on subit les conséquences. Et ça, c'est pas des dirigeants. Est-ce qu'on ne pouvait pas prévoir? Vous savez, avec les caniveaux qui sont aujourd'hui à Kinshasa partout bouchés, quand il y a une grosse pluie comme ça, ça débouche sur quoi? Ouais. Donc c'est ce manque de gestion, de management urbain correct, et qui fait que nous avons les conséquences aujourd'hui. Prévoir, organiser, commander, contrôler. C'est ça le travail qu'un dirigeant doit faire.
Alors justement, comment peut-on prévoir, comment peut-on remédier? Car ce n'est pas la première fois que Kinshasa subit de graves inondations. Didier Moumengui est un ancien sénateur, il est écrivain également. Et il dénonce entre autres l'urbanisation anarchique de la capitale congolaise. Il était au micro de Nicolas Sur d'Afrique Midi.
La première des solutions, c'est mettre en place un plan de curage de caniveaux qui soit méthodique et qui soit assorti d'un programme de sensibilisation de la population sur la propreté, sur la gestion des déchets. Il y a aussi la démolition de constructions anarchiques. On ne peut pas être une ville sans règlement sur le plan de construction. Il n'y a pas de taille d'immeuble, il n'y a pas... Non, on construit comme on veut, là où on veut. L'autre solution, c'est la protection des zones humides, la restauration des aires protégées. La ville doit respirer à travers les aires boisées. Il y en avait une dizaine dans la ville de Kinshasa et tout ça a disparu. Voilà, ce sont des solutions pratiques qu'on peut mettre en place tout de suite. Il faut repenser intégralement la ville. Je répète, il faut décréter cette ville de Kinshasa, ville sinistrée, et mettre sur place une administration urbaine d'exception.
Didier Moumangui, ancien sénateur de Kinshasa. Et puis au Rwanda, ce lundi 7 avril, marque comme chaque 7 avril d'ailleurs le lancement des commémorations du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Il y a 31 ans, pendant 100 jours, des massacres ont été commis partout à travers le pays, visant la communauté Tutsi et des Hutus modérés. Entre 800 000 et 1 million de personnes ont été massacrées cette année. Dans son discours au Mémorial National de Gisozi, le président Paul Kagame a largement évoqué la situation actuelle qui prévaut dans l'est de la République du Congo avec le conflit. Il a dénoncé les critiques contre Kigali. Lucie Mouyou.
Un passé sombre et un présent cruel. Pour le président Paul Kagame, les deux ne peuvent pas être séparés et les Rwandais doivent choisir entre se battre ou se laisser faire. Le pays ne peut pas, déclare-t-il, se plier devant des mesures punitives.
Si quelqu'un vient et dit qu'il va nous sanctionner, qu'il aille en enfer, qu'il aille simplement en enfer. Vous avez vos propres problèmes à gérer. Allez gérer vos propres problèmes. Laissez-moi m'occuper des miens. C'est cet esprit, je pense, que les Rwandais doivent avoir dans leur vie quotidienne.
Le narratif dans la crise à l'est de la RDC veut faire passer les victimes. Pour des bourreaux, martèle le chef d'État, dénonçant des discours de haine et stigmatisation contre les Tutsis congolais et rejetant les accusations portées contre le Rwanda dans le conflit.
Tout ce problème de l'idéologie génocidaire qui a tué des millions de personnes a été transformé en un problème de minerais. Si ces allégations étaient vraies, vous savez quoi ? Le Rwanda serait aussi riche que vous, ceux qui font ces accusations. On n'aurait absolument pas besoin de votre argent.
Au Mémorial national de Gisozi, le chef d'État a allumé ce matin la flamme du souvenir, un geste qui marque le lancement des activités de commémoration, période annuelle de 100 jours, pour honorer la mémoire des victimes du génocide contre les Tutsis. Lucie Mouyo, Kigali. RF.
Et à Nouakchott, en Mauritanie, des milliers de personnes ont manifesté ce lundi devant l'ambassade des États-Unis en parallèle d'une grève largement suivie pour dénoncer, je cite, le génocide à Gaza alors qu'Israël a repris son offensive le 18 mars, un rassemblement organisé par un collectif de syndicats. L'université de Nouakchott et plusieurs instituts et écoles sont restés fermés. En Afrique du Sud, alors que le président ukrainien doit bientôt se rendre dans le pays, une fausse information agite les réseaux sociaux. Une vidéo qui a été vue plusieurs millions de fois avance à tort que Volodymyr Zelensky aurait dépensé plus d'un milliard d'euros pour acheter des parts dans une compagnie minière locale. Il s'agit d'une infox, une fausse information. Elle a été diffusée dans une partie de la presse africaine. Grégory Genevrier, une usurpation d'identité fabriquée dans le but de discréditer Volodymyr Zelensky.
Oui, en croire cette vidéo, le président ukrainien viendrait d'acquérir 51% des parts de la compagnie minière sud-africaine Northam Platinum contre un chèque d'1,6 milliard de dollars. Sauf que tout est faux, la société minière que nous avons contactée affirme que Volodymyr Zelensky n'est pas entré au capital de l'entreprise. Dans les faits, l'actionnariat de Northam Platinum reste aujourd'hui inchangé. Sur la forme, ce reportage siglé du logo SABC n'a pas été produit par la chaîne de télévision sud-africaine. Le logo du média a été apposé fallacieusement sur des images datées de septembre 2023 lors de la visite du président ukrainien dans le pays. Côté son, le commentaire a été généré par une intelligence artificielle. Cette infox, vue plus de 5 millions de fois, a été diffusée dans plusieurs médias africains, notamment au Zimbabwe. Le mode opératoire et les canaux de diffusion utilisés montrent que cette infox s'inscrit dans une vaste campagne de désinformation poussée par un réseau pro-russe très actif sur les réseaux sociaux.
RFI à Libreville, 104 FM.
À l'approche de la présidentielle du 12 avril au Gabon, RFI donne la parole à l'ensemble des 8 candidats qui sont en lice. Ce soir, Thierry Yvon Michel Ngoma, il a 46 ans. Il va retenter sa chance après une première candidature. C'était lors du scrutin annulé de 2023. Il a choisi de faire campagne sur un credo résolument souverainiste. Il prône notamment la sortie du franc CFA. Il en a parlé avec François Mazé.
Si je reviens à la charge pour la simple raison que, comme tous les Gabonais, nous avons salué l'avènement du CTRI, donc du comité de la transition, voilà. Nous avons pensé que les choses pouvaient se passer autrement. Nous avons constaté avec beaucoup de désolation qu'au cours de cette transition, tout ce que le peuple et d'ailleurs l'opinion internationale reprochait au système déchu, ben voilà, la transition n'a fait que se plonger dans la coloration du même méandre. Pour certains qui ont pensé que c'était un coup de libération, moi je dis que c'était un coup d'État, mais qui malheureusement, quand on reprend les mêmes et on recommence, vous comprenez qu'il n'y a pas de changement, ce n'est que de la simple continuité.
Votre programme, il fait la part belle aux politiques sociales, dans l'éducation, la santé. Quelles sont vos promesses principales ?
La déchéance existe et le peuple en est justement la principale victime. Et moi, je pense que je ne suis pas de ceux des personnalités qui caressent le pouvoir dans le sens du poil. Il est temps que les choses changent. Il est temps que le Gabon se développe en réalité.
Alors, contrairement aux autres candidats, vous vous demandez une rupture franche avec l'ancienne puissance coloniale et notamment la sortie du franc CFA. Pourquoi ?
La France a montré ses limites. Mais qui, malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, a implanté, une attitude de désinvolture qui, au jour d'aujourd'hui, le Gabonais ne s'y retrouve plus. Et la France, au lieu d'écouter la voix, le porte-flambeau du Gabonais le plus démuni, elle ne fait que s'enorgueillir en pillant par des situations conventionnelles. Pourquoi le Gabon reste plongé toujours sous la bannière du franc CFA ? C'est un fonds de colonie française. Nous sommes un État souverain, au même titre que la France. Alors moi, j'estime que dès aujourd'hui, je prendrai des initiatives assez fortes, déjà pour sortir le Gabon du franc CFA, surtout de mettre à plat.
Est-ce que vous considérez que vous êtes le seul candidat souverainiste de cette élection ?
Pour le moment, je suis le visionnaire de l'avenir et du développement du Gabon. Je ne pense pas que d'autres candidats ont cette vision. Moi, je pense que mes adversaires ne sont pas outillés, ne sont pas à la pointe de la vision d'un véritable État libre.
Voilà donc Thierry Yvon Michel Ngoma qui est candidat à la présidentielle du 12 avril au Gabon. Il répondait aux questions de François Mazé. Et puis pour en savoir plus, l'intégralité des interviews des candidats avec leur programme sont à retrouver dans un article spécifique et ça se trouve sur notre site internet rfi.fr. Le football et le Sénégal qui s'est qualifié ce soir pour les quarts de finale de la CAN des moins de 17 ans. Les Lionceaux de la Teranga se sont imposés 2-0 face à la Somalie. Tenant du titre, les Lionceaux terminent donc co-leader du groupe C derrière la Tunisie. Vainqueur 2-1 ce soir face à la Gambie. Voilà donc les affiches des quarts de finale et ça va se jouer à partir de jeudi. Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina Faso, Zambie, Maroc, Afrique du Sud et enfin Tunisie, Mali. À l'heure du protectionnisme économique, de nombreux gouvernements africains jouent la carte du local pour transformer sur place les matières premières. C'est le cas du Bénin, premier producteur de coton en Afrique. Il a bâti une vaste zone industrielle. Elle se trouve à une quarantaine de kilomètres de Cotonou. On y fabrique notamment du textile en partant du coton brut jusqu'au produit fini. C'est Afrique Éco avec Bruno Faure.
Les machines à coudre tournent à plein régime. L'atelier est au cœur de la zone industrielle de Glodjibé, GDIZ. Des centaines de jeunes hommes et de jeunes femmes au travail.
Moi, c'est Claudia Fouébé-Kiki. Je suis sur la ligne de polo. On court des habits Lacoste. Donc, je suis sur la première opération, c'est-à-dire je couds les épaules. Après ça, il y a d'autres qui coudent les manches jusqu'à la finition.
Une course de relais pour fabriquer chemises, t-shirts, toutes sortes de vêtements commandés par de grandes marques internationales.
Qui habillent, ils ont l'habitude de commander en Chine et autres, mais actuellement, maintenant, ils commandent chez nous.
Kiabi, The Children's Place ou encore Gémeaux, Adangpo Deborah Christa, chargée de marketing et merchandising.
Nous recevons les commandes des bailleurs en fonction de leurs documents qu'ils nous présentent, que nous appelons le Technical Pack. Nous suivons à la lettre ce qu'ils nous demandent, le tissu qu'ils veulent, les boutons qu'ils veulent, les fils à utiliser. Donc dès que moi je reçois le document, je viens voir le magasinier, je lui soumets ce que je veux.
En amont de la couture, plusieurs ateliers dans ce parc textile qui tisse sa toile d'année en année. Dans un autre bâtiment, de la fibre de coton brut transformée en fil, Valère Undete, superviseur de production.
À chaque niveau, dès la réception du coton de chez le graineur, l'équipe de qualité va déjà prélever des échantillons pour vérifier exactement c'est quoi le grade, c'est quoi la couleur. À chaque étape, nous avons des éléments qui vérifient avant qu'on ne puisse continuer la transformation.
Produire du textile 100% made in Bénin, c'est l'objectif de la société Bénin Textile qui veut concurrencer les géants asiatiques. Son directeur général adjoint, Yemi Arouamenou.
En termes de coûts, on se retrouve à peu près à égalité avec nos concurrents asiatiques dans une marge de 5 à 10%. Ceci dit, le gros avantage est le gain de temps par rapport au shipping jusqu'au marché final. Le point de départ du Bénin nous offre une position stratégique pour atteindre le marché européen ou le marché américain.
Malgré le nouveau climat commercial mondial, le Bénin, qui ne transforme aujourd'hui que 12% de sa production cotonnière, cherche de nouveaux marchés. Il espère, grâce à sa zone économique spéciale et de nouveaux investisseurs, générer une valeur marchande de 12 à 14 milliards de dollars chaque année.
Il est l'heure de faire le tour de l'actualité musicale et ce soir c'est en compagnie de Franck Baudin de la rédaction web de RFI. Bonsoir Franck.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous.
Et on va d'abord revenir sur la disparition dont nous avons parlé tout le week-end du chanteur malien Amadou Bagayoko.
Et oui Sylvie, la moitié du duo Amadou et Mariam s'en est allée ce vendredi 4 avril à l'âge de 70 ans. Ces deux artistes que l'on a longtemps surnommé le couple aveugle du Mali étaient partenaires sur scène comme dans la vie. Ils ont largement contribué à diffuser la musique malienne à l'international avec des tubes comme « Mon amour, ma chérie » en 1998 ou encore « Beau dimanche » en 2004. Pour nous à RFI, l'histoire remonte encore plus loin puisqu'en 1982, Amadou Bagayoko avait remporté le prix Découverte RFI. Il a été inhumé hier à Bamako lors d'une cérémonie à laquelle plusieurs milliers de personnes ont assisté. Je vous propose d'écouter la chanson « Je pense à toi » du duo Amadou et Mariam en hommage au chanteur disparu.
Vous pouvez retrouver les reportages, les dossiers et tous les éléments de biographie sur Amadou Bagayoko sur notre site internet, je vous le rappelle. Et nous allons rester, Franck, dans la même région avec une formation guinéo-malienne. C'est le trio Dakali qui sort un nouvel album intitulé Bagola.
Mama, c'est toi fort, mama, c'est toi fort, madabe kuma chamana, idongo kuma toé.
C'est une balade musicale au cœur de la culture mandingue que nous proposent ces trois musiciens. Kassé Madi Diabaté au chant est l'une des plus belles voix du Mali. Elle est entourée de Madou Kouyaté au gonibas, c'est une sorte de luth ou de guitare traditionnelle. Et il y a aussi le guinéen Lassana Diabaté au balafon, cet instrument à percussion typique de l'Afrique de l'Ouest. Bagola, c'est le nom de leur nouvel album et c'est aussi le titre de cette chanson du trio Dakali que l'on entend en ce moment. Les trois comparses ont choisi une musique entièrement inspirée de leur tradition. Je vous laisse apprécier leurs mélodies en vous.
Bagola kamale ngora bagola e kwa fasi
Bagola kamale ngora bagola e kwa fasi
Bagola kamale ngora bagola e kwa fasi
Ne fani mai wele kwa ngadunga fe umfai ne dunga fe umancha wa ne dunga fe teberebo Ne fani mai wele kwa ngadunga fe umfai ne dunga fe umancha wa ne dunga fe teberebo
Trio de Cali promène son balafon magique tout au long de Bagola. Une chronique de Bertrand Lavenne à retrouver sur RFI.fr. Et on reste franc en Afrique de l'Ouest, mais on prend la direction de la Côte d'Ivoire cette fois. Et je crois reconnaître la chanteuse ivoirienne Aïcha Koné.
Et c'est bien ça, Sylvie. Alors, vous avez bien reconnu Aïcha Koné. Je vois que vous avez révisé vos classiques, mais est-ce que vous savez au moins qu'elle vient de fêter ses 50 ans de carrière?
Déjà, comme le temps passe,
François. Eh oui, le temps passe. C'était samedi dernier, la Mama Africa a donné un concert géant au Palais de la Culture de Trècheville pour célébrer son parcours artistique démarré dans les années 70. Notre correspondante à Abidjan, Marine Janin, l'a rencontrée chez elle pour une interview que vous retrouverez avec tous nos contenus musicaux sur notre site rfi.fr/musique. Je vous laisse avec ce titre Yuguba d'Aïcha Koné, qui est en collaboration avec Ariel Chenet et Chouchou Salvador. Ça, c'est un titre qui va plaire à DJ Facemaker, qui sera ici demain d'ailleurs. Et la chanson est sortie il y a tout juste 3 semaines.
Maman brevet de Toulouse. Poitou de Piagma. Manou TGV. Le père Takota Dembélé.
Oh Kameleba, Kameleba lebe ba ya Yuguba.
Kameleba,
Kameleba Kameleba lebe ba ya Valer Long.
Kameleba, Kameleba.
Le grand Pedro Koné.
Ba ya Don Balima, ba ya Valer Long. Ba ya Don Balima, ba ya Valer Long. Ba ya Don Balima, ba ya Valer Long.
C'est notre spécial.
Ba ya Don Balima, ba ya Valer Long.
Yuguba, ba ya Yuguba. Chéri la baya Yuguba, Yuguba baya Yuguba, chéri la baya Yuguba, hey yeah.
Yuguba, Yuguba,
Lionel Messi,
Yuguba,
Love to Fly,
Yuguba, Yuguba, Yuguba,
Jean Alain Olo,
Yuguba,
Yuguba.
Suprême, trop fort.
Yuguba, baya Yuguba, chéri la baya Yuguba, Yuguba, baya Yuguba, chéri la baya Yuguba, hey yeah.
Komis kandom suite, bam suki man som suite, samas kandom
suite, yul fechon de divo,
satron si akwa.
Ate giri, ate giri giri, ate giri giri, ate giri giri, yere te te.
Melissa Tapedo.
Nadia Sabé.
Yuguba.
Askia le banquier.
Yuguba.
Ariel Chené. Yafa. Et puis à femme.
Et merci à Franck Baudin pour cette belle sélection musicale sur RFI pour refermer cette édition d'Afrique Soir. Merci à toute l'équipe, Alexis Guilleux, Guillaume Bédran, Philippe Randria Nanténaïne. Reste à l'écoute, l'info revient dans un peu plus de 2 minutes sur la radio du monde. Il sera question des bourses mondiales qui ont dévissé aujourd'hui et du président des États-Unis Donald Trump qui n'envisage pas de pause sur les droits de douane. Il menace même la Chine de nouvelles taxes si Pékin poursuit sa riposte aux droits de douane déjà imposés par Washington. On évoquera également le Proche-Orient avec une journée de grève pour les Palestiniens de Cisjordanie occupée et de Jérusalem-Est. Ce sera le journal d'Antoine Galen dans quelques instants.
RFI, la sélection du mois.
Caballero et Jean Jass avec Yamé. Sami Ghalmi.
RFI Musique.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
Imagerie médicale, diagnostic, suivi et traitement des maladies.
Mercredi.
Chikungunya, l'île de la Réunion frappée par une épidémie.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Le prix théâtre RFI.
Je suis Gad Ben Salem, lauréat du prix RFI Théâtre 2024. Ça a été une expérience enrichissante à tous les niveaux. Ce prix est un véritable tremplin. C'est à votre tour.
Si comme Gad Ben Salem, vous aimez le théâtre et vous avez moins de 46 ans, vivez en Afrique, aux Caraïbes ou au Proche-Orient, envoyez vos textes, drames ou comédies avant le samedi 3 mai minuit à prix.théâtre@rfi.fr.
Chers auteurs, chères autrices, le prix RFI Théâtre 2025 peut être vous.